Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore de vos prières. Je vais bien. Voilà. Je vais mieux. Je suis encore en rééducation cardiaque, mais ça va de mieux en mieux. Alors, je vous ai déjà partagé plusieurs fois, je crois, que pour moi, la Bible est essentielle dans notre vie chrétienne. C'est là-dedans que nous y puisons toutes nos ressources, tous nos champs, enfin beaucoup de nos champs, pas tous. Et elle est ce qui nous permet de vivre. Et moi, j'aime à dire que la Bible, il y en a plusieurs versions, et ce sont de beaux livres qui contiennent effectivement tous les livres que le Seigneur a bien voulu nous laisser. Mais lorsque nous sommes disponibles, lorsque nous avons la liberté d'être pardonnés, comme a dit notre frère, alors la Bible devient la parole de Dieu. Et ce matin, c'est la parole de Dieu qui m'a été donnée ces quelques temps, que je voudrais partager avec vous. Et je vous invite à faire une pause dans la vie turbulente que nous menons. Comme je vous l'ai dit, j'essaye depuis que je suis ici à parler de ce que je comprends comme essentiel dans la parole de Dieu. Ce matin, je suis venu avec une conduite essentielle dans la vie chrétienne. Vous allez voir. Tout d'abord, permettez-moi de poser le décor. En fond, il y a l'éternité. Et dans l'éternité, l'éternel, le Dieu saint, parfait. L'atmosphère est sainte. Le paysage parfait. Une douceur nous envahit, tout est bon, agréable et parfait. Voilà, nous sommes tout à fait dans la disponibilité de la présence de Dieu. L'éternel Dieu règne et du haut de sa gloire, il contemple sa création, l'univers. Et l'objet de son attention, la terre. Eh oui, Dieu a tout accompli pour cette terre. Il a créé un univers de paix. Et il a installé une relation d'amour avec les êtres humains. Voilà le décor. Du début, que nous n'avons plus aujourd'hui, mais en majesté, l'Éternel règne. Mes amis, cette pause de ce matin se veut rafraîchissante. Nous contemplons l'univers humain, laissons-nous aller dans cette béatitude de beauté, de perfection et d'amour. Lorsque nous pensons à Dieu et à l'Église de Jésus-Christ, gardons cette idée à l'esprit. Moi, j'ai besoin de regarder Dieu de cette façon. Pour moi, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Je suis donc venu ce matin avec une bonne nouvelle. J'aime à le dire. Je sais comment trouver le bonheur. Il est où le bonheur? Je crois que quelqu'un chante ça. Il est où le bonheur? Alors venez, je vais vous le montrer. Mais tout d'abord, prions. Oui, Seigneur, c'est un petit clin d'œil. Il est où le bonheur? Mais c'est peut-être ce que nous cherchons tous, à être heureux. Parce que le bonheur, c'est d'être heureux. Et la Bible en parle en long, en large. Des heureux, il y en a plein, la Bible. Et ça nous rafraîchit, ça nous fait du bien. Pour revenir à ce qu'a dit notre frère tout à l'heure, heureux ceux dont la faute a été pardonnée. Ah oui, j'en fais partie. Et c'est vrai que c'est une part de mon bonheur. De ne pas avoir à culpabiliser, de ne pas avoir à ressasser les choses de ce passé, mais de savoir que tout est pardonné, une fois pour toutes. Et Seigneur, nous voulons justement marcher de progrès en progrès. Permets que ce matin, justement, ce regard soit rafraîchissant, qu'il s'adresse à nous, parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le monde, et que nous puissions en tirer les conclusions que tu veux que nous tirions pour chacun d'entre nous. Bénis cette Église, bénis Seigneur ta parole, afin qu'elle pénètre notre cœur et qu'elle nous instruise, qu'elle nous rafraîchisse, qu'elle nous corrige peut-être, mais qu'en tout état de cause, elle nous conduise vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Pour introduire Voici la recette du bonheur. Le bonheur, c'est d'être heureux. N'est-ce pas? Prenons la Bible. Il y a beaucoup d'heureux. Par exemple, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Ou alors, heureux tout homme qui craint l'Éternel, c'est-à-dire qui respecte l'Éternel. Ce matin, Dieu nous a concocté un menu. Je vous invite à oublier notre quotidien pour vivre un temps au pays des béatitudes dans Matthieu 5, les versets 3 à 12. Alors, comment ça fonctionne, ça, déjà? J'appuie. Ça marche. Formidable. Donc, Matthieu 5. Alors, j'aime beaucoup ces passages du Sermon sur la montagne. Et ici, nous avons quelque chose qui, d'ailleurs, ça vient du mot, qui me laisse béat, qui me laisse vert, pardon, je vais m'approcher un peu, même si j'ai une voix qui porte assez, qui me laisse complètement ébahi, parce que ça n'a rien à voir avec ce que le monde nous présente. Ici, nous avons la première, qui est très importante, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Moi, ça me touche énormément. Il y en a trois que je vais souligner particulièrement, mais qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, bien souvent, nous autres protestants, surtout pour ceux qui sont de souche, moi je ne suis pas de souche, donc touche un peu moins, peut-être, mais c'est cette arrogance qu'il y a au fond de notre cœur de se satisfaire de notre connaissance, de notre sagesse. Ici, il est dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui ont conscience de la réalité. » Comme dit Paul, « Je vois cette loi en moi, c'est que je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne veux pas. » Pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. C'est-à-dire ceux qui se sentent concernés par les chagrins des autres, qui ont de l'empathie, qui partagent, qui ont de la compassion, qui veut dire porter avec. Heureux ceux qui portent le fardeau des autres avec eux. Porter avec. J'aime bien cette explication. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Alors ceux-là, ils sont bien heureux parce que moi, je ne suis pas un doux. Donc, heureux ceux qui sont doux. J'aime bien ceux qui sont doux. Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. C'est marrant parce que ça n'a rien à voir avec ce que le monde nous dit pour être heureux. C'est pas du tout compatible. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et là, je voudrais m'arrêter deux secondes, parce que pour moi, c'est véritablement un passage, extraordinaire pour la vie du chrétien. Avoir un cœur pur, c'est quelque chose qui me touche profondément. Souvent on me dit, comme moi je viens un jour je vous donnerai mon témoignage, mais aujourd'hui c'est pas le cas, parce que d'abord on y passerait trop de temps, et puis ensuite, c'est pas le sujet, mais heureux ceux qui ont un cœur pur, c'est-à-dire ceux qui ont vécu des expériences peut-être difficiles, mais qui sont restés naïfs, qui sont restés toujours disponibles, qui ont cette faculté de croire que tout est possible. Ma dernière fille, qui est hôtesse de l'air, me dit tout souvent en rigolant, ça peut toujours être pire. Eh bien moi, je pense que ça peut toujours être mieux. C'est quand même différent. Avec Dieu, tout est possible. Et je pense que beaucoup de problèmes viennent de là, avoir un cœur pur. Depuis que je suis chrétien, il y a de ça plus de 40 ans, c'est de là que j'ai vu les problèmes non résolus rester à leur place. Pourquoi? Une petite voix me dit, mais parce que j'aime bien mes problèmes. J'aime bien les garder. Cela me permet de me plaindre. Et surtout, c'est là que le cœur pur entre en action, car je confesse mes problèmes, mais le diable vient me murmurer dans le fond de mon cœur, Michel, c'est pas bien grave ton problème. c'est un petit péché. Et puis plus tard, il revient et il me dit, mais est-ce vraiment un péché? Et mon cœur tordu finit par dire, en fait, j'ai bien le droit de le faire. Et je n'ai plus un cœur pur. J'ai étouffé mon cœur pur. Le cœur pur dit devant un problème, pardon Seigneur, j'ai tort. C'est difficile de dire, j'ai tort. Ensuite, heureux ceux qui procurent la paix. J'espère que c'est un peu ce que je fais ce matin. Être heureux, c'est avoir la paix. Enfin, pour finir, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice et heureux ceux que l'on insultera ou qu'on persécutera à cause de Jésus. Ce ne sont pas les critères du monde qui veut que pour être heureux, il faut être riche et en bonne santé. N'est-ce pas? Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être. La Bible dit que ce n'est pas ce qu'il faut rechercher en tant que chrétien pour être heureux. Alors j'aime bien ces béatitudes qui nous montrent que pour être heureux, ce n'est pas forcément ce que le monde dit. Voilà, nous avons vu que ce sont des choses qui sont tout à fait différentes. Alors ce n'est pas étonnant que parfois les chrétiens ne soient pas heureux, parce qu'ils sont séduits par le monde et ils recherchent aussi les plaisirs du monde. Eh bien, pour une fois, ce matin, la Bible nous dit que ce n'est pas ce qu'il faut rechercher. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Et je peux vous dire que je suis resté longtemps sur ce verset, parce que je m'y retrouve bien. Je me vois bien tel que je suis, un pauvre. Mais après justement avoir eu ce regard de Matthieu 5, il y a cet émerveillement, l'application qui vient derrière. Vous êtes le sel de la terre, il faut que je passe là, voilà. Vous êtes le sel de la terre. Et pour démontrer que le bonheur est éphémère dans le monde, Jésus dit, « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » Alors, pardonnez-moi, mais je dois confesser ma gourmandise. J'ai été un chef amateur, j'ai même écrit et réalisé un petit livret de cuisine, j'en ai plusieurs comme ça, si jamais vous en voulez un. Je serai heureux de vous l'offrir. Ce sont des recettes. Parce que pendant 10 ans, j'ai fait la cuisine pour des handicapés à Mâcon, où nous étions, hein, d'où nous venons. J'ai fait de multiples prestations pour témoigner de l'Évangile. J'ai toujours, dans ma vie, été passionné de cuisine. Et aujourd'hui, bah effectivement, physiquement, je paye un peu mes excès. J'ai donné du goût à ma cuisine. Voilà, je n'ai pas fait forcément, j'étais pas le meilleur, mais ma cuisine était reconnue pour être belle et bonne. Ce que nous dit le texte de Matthieu y ressemble. Quand on est passionné, cela se sent, cela se voit, ça a du goût. Vous êtes, nous sommes, le sel de la terre. Et puis encore pour appuyer plus davantage son idée, Matthieu ajoute, vous êtes la lumière du monde, la lumière chasse les ténèbres. Et je vous donne un exemple. Venez avec moi, je vous tiens bien, vous m'écoutez, c'est bien, on est bien en face, c'est bon. Fermez les yeux. Si vous fermez les yeux, c'est tout noir. Imaginez, vous êtes dans une cave, il fait bien noir. Si vous ouvrez les yeux, il fait noir. Mais vous avez une bougie et vous craquez une allumette. En un clin d'œil, voici la lumière des ténèbres, la lumière et les ténèbres ont cédé la place. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Permettez-moi de vous donner un exemple flagrant de cette réalité dans la vie de tous les jours. Nous venons avec mon épouse de Mâcon. Pendant 10 ans, donc j'ai exercé mon ministère parmi les handicapés. J'étais aussi le trésorier de la société de pêche. Société très importante à Mâcon, le long de la Saône. Plus de 2300 permis, une équipe de direction de 20 personnes. Et moi, j'ai créé la section handispêche et je participais presque à toutes les actions de la société, c'est-à-dire, bien sûr, la trésorerie, mais aussi les différents concours, etc. Et notamment l'alvinage. Alors le village sait faire un apport de poissons dans les rivières parce qu'elles en manquent, et surtout de truites. Ma mission était celle de Matthieu 28, aller vers les non-croyants. Et je suis toujours dans cet esprit. J'ai pris plaisir à vivre hors de l'Église pour être le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre, si le sel perd sa saveur. Alors vous savez, en Orient, à l'époque, le sel, c'était l'anti-pourriture. Parce qu'il n'y avait pas de frigo à l'époque. Donc, on mettait le sel pour protéger les différents aliments. Et quand le sel était périmé, eh bien, il servait sur le paillasson devant la maison pour pouvoir se frotter les pieds avant de rentrer. Il n'était plus valable pour faire de l'anti-pourriture, mais il était encore valable pour s'essuyer les pieds. Si le sel perd sa saveur... Voilà. Donc, à l'époque, j'avais 3 gardes de pêche et je leur ai apporté l'évangile avec une Bible, comme je fais régulièrement avec plusieurs personnes, là dans le cours de où je vais pour rééduquer, eh bien j'ai eu l'occasion avec un voisin de lui donner le livre de Alain Chouaquier, Mon seul chemin, vous connaissez, et puis une Bible. Voilà, si, parce que j'ai lié un lien avec lui, et puis je lui ai dit, écoute, c'est ce que je vis, je te le laisse. J'espère que ça nous permettra de discuter par la suite. Faut pas avoir peur de semer, de semer, de semer. Donc un jour, nous étions en route pour apporter des truites dans une rivière. Chacun un seau à la main, plein de truites. C'est lourd, hein, un seau plein de truites. Et ça bouge. C'est vivant à l'intérieur. Nous devions traverser un champ pour les déverser dans la rivière. Et devant moi marchait Christian, un garde, avec qui j'avais témoigné justement à l'hôpital, où il était opéré d'un cancer de la vessie. Il vit toujours, d'ailleurs, avec beaucoup de souffrance, ce pauvre homme. Et il m'appelait pasteur. Voilà, dans le... Vous savez, les pêcheurs, c'est pas des tristes cires, hein. Donc, ils ont un langage qui est assez approchant. Et pour eux, j'étais un petit peu, effectivement, le sel de la terre. Parce que les pêcheurs, eux, c'est plus la boisson, c'est plus la cigarette, c'est plus les femmes, etc., etc. C'est pas forcément le meilleur langage si on veut découvrir comment bien marcher avec le Seigneur. Et donc, mon garde qui marchait devant moi, à un moment donné, il se prend le pied sur une motte de terre, là, il s'enfonce dans la terre et les truites, elles volent de partout. Alors moi, j'étais mort de rire derrière, hein, parce que les truites, ça saute. J'ai pris mon seau, je suis allé, j'ai aidé à ramasser les truites comme ça, mais au fond de moi, je rigolais. Et puis, lui, par contre, il s'est mis à pousser des cris et... Il est devenu tout rouge et il a juré un grand nombre de dieux. Soudain, il me voit à côté de lui, je ramassais les truites et il s'est écrié « Oh pardon, pasteur, vous êtes le sel de la terre. » Il a ressenti à ce moment-là que ce n'était pas compatible ces jurons, surtout des jurons sur Dieu, effectivement. Vous avez du goût, chers frères et sœurs. C'est de loin la meilleure méthode d'évangélisation. C'est la plus simple, mais ce n'est pas la plus facile. Je me souviens d'un de mes enseignants, quand j'étudiais dans les années 80 la Bible, et en venant nous apporter un cours pastoral, nous étions 3 pour être supposés devenir un jour ancien, il nous a dit, alors les jeunes, vous voulez servir le Seigneur ? Oui, je vais vous apprendre à passer la serpillière. J'ai gardé au fond de moi cette idée, parce que c'est une bonne idée. J'ai passé la serpillière pendant 10 ans. Vous êtes la lumière du monde, c'est une métaphore bien sûr, mais je pense que chacun d'entre nous est appelé un jour à passer la serpillière chez son voisin, dans sa famille. Ça peut prendre du temps, mais ça marche, parce que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Ce qui est essentiel, ce n'est pas de faire des actions pour être vu, c'est de faire ce qu'il faut. Et quand vous avez fait tout ce que vous deviez faire, dites, je suis un serviteur inutile. C'est Matthieu aussi qui nous dit ça. Voici la conclusion. 1 Pierre 2, 9 à 10. Hop. Et cette conclusion commence déjà par nous rappeler ce que nous sommes. Vous, au contraire, il dit, parce qu'il parle un peu avant de ceux qui ne marchent pas forcément bien, il dit, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Frères et sœurs, je ne sais pas d'où vous venez, mais je sais d'où je viens. Et je n'ai pas une famille, hein. Je suis quelqu'un qui vient de la rue, comme ça, j'ai été élevé dans le ruisseau. Eh bien, quand je pense que nous sommes un peuple choisi, un peuple racheté, moi, je peux vous dire que ça éveille des sentiments qui sont profonds. Commençons par nous rappeler notre place et notre position en Christ. Le bonheur, il est là. Vous êtes un peuple choisi. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Ça me va bien, ça. Parce que j'étais rien. Ni famille, ni rien. Je traînais avec les autres, sauvegarde de l'enfance. Et voilà. Donc, ça se passait comme ça. N'est-ce pas fabuleux, mes amis? Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Alors voilà la meilleure méthode d'évangélisation. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Il y a quelqu'un qui porte avec vous. Il y a quelqu'un qui est tout le temps à côté de vous et qui porte avec vous pour que vous restiez le sel de la terre, pour que vous soyez pur, un cœur pur. Un cœur pur, c'est celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, dit Jésus. C'est celui qui, profondément au fond de son cœur, a cette passion de la vie avec le Seigneur. C'est une passion, c'est pas une vie. Si vous vous êtes converti uniquement pour avoir un titre ou pour pouvoir dire un jour j'irai au paradis, tout faux. Parce que c'est pas ça la conversion. La conversion, c'est de découvrir qui est Dieu, d'ouvrir les yeux sur l'extraordinaire et de dire « Je suis invité à rentrer dans l'extraordinaire. Je suis invité à venir à la table du Maître. Vous qui n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. » Pas le peuple de Macron, non, ou de qui vous voudrez. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'êtes pas seul. Vous ne serez jamais seul. Quoi qu'il puisse vous arriver, quelques problèmes que vous puissiez rencontrer, quand j'étais dans mes difficultés, on m'a ouvert le cœur là pour essayer de savoir si j'en avais un. Pareil, j'en avais un. Formidable. Hein, eh bien, je peux vous dire qu'on passe par toutes les couleurs. Hein. On ne sait pas bien où on va aller. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas forcément quelqu'un de très aventureux dans ce domaine-là. Je subis. Et puis, deuxième et fin, bien-aimé, et je peux vous le dire, c'est véritablement comme ça que je vous ressens. J'aime bien cette petite église ici. Je la sens tout à fait humaine et à portée de ce que l'on a envie, de ce que l'on a besoin. C'est ça le bonheur. C'est être heureux les uns avec les autres, ensemble. Je vous encourage donc, en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants. Vous voyez, la bonne conduite, c'est pas ici le dimanche matin. Si, c'est bien de, hein, pas vous dire de faire des bêtises, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'aller dehors, parce que nous, on n'a rien à gagner ici, on a déjà tout. Vous avez tout pleinement en Christ. Donc, je veux dire qu'à la limite, je peux mourir, là où je vais, je sais que ça sera bien mieux qu'ici. C'est pas ça le but. Si je suis ici, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est que je suis un témoin. Mais pas un témoin fort en gueule, un témoin par des actes précis. Celui-ci, il a faim, je vais l'aider. Par exemple, j'avais un copain qui est mort maintenant, qui était un handicapé à Mâcon, Et j'ai passé des heures et des heures avec mon kangou, j'avais un berlingot à l'époque, pas kangou, un berlingot, et j'allais le chercher, je prenais son fauteuil, je le mettais derrière, et lui, je l'aidais à monter, c'est un gars qui avait un problème avec une hernie discale, et il s'en était pas remis, quoi. Il souffrait, c'est affreux. Mais j'ai passé un temps, mais vraiment, des fois j'étais crevé, j'en pouvais plus, non, non, ça faisait rien, il y avait mon guide, je le prenais, hop, et on allait ensemble. Résultat, il s'est converti. Maintenant, il est mort, mais je sais où il est. C'était un grand bonheur pour moi. C'était un bon copain, vraiment un monsieur qui était bien gentil. Et bon, je connaissais toute sa famille aussi, je continue de prier pour eux. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Guy, quand il me voyait, il me disait, Michel, je suis heureux. Voilà. Il avait tout pleinement. Il était heureux. Et pourtant, il souffrait. Ouais. Donc je vous encourage, résidents et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs. Pardonnez-moi, hein, je suis un peu ému, c'était vraiment un bon copain pour moi. Qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, il y a une raison, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendre gloire à Dieu le jour où il interviendra. Vous voyez, c'est la même idée que nous avons eue dans Matthieu 5. C'est la même chose. Hein. Qu'ils rendent gloire, que les païens, vous voyez, se retournent à un moment donné, qu'ils disent, « Oh, pardon, pasteur, j'avais pas vu que vous étiez là. Je viens de dire quelque chose d'horrible. » C'est cette perception de savoir que vous êtes le sel de la terre. Je le vois. Je suis pourri, mais je ne peux pas rester en face de votre pureté, je la reconnais. Jusqu'au jour où il dira, mais est-ce que moi je pourrais aussi être pur? Est-ce que moi aussi je pourrais être le sel de la terre? Oui. J'attends toujours ce moment qui arrive et où je peux dire, oui, c'est aussi possible à tous ceux qui le veulent. Le salut est quelque chose qui est gratuit. Ayez une bonne conduite. Notez que ce n'est pas dans l'Église, mais dans le monde. Pourquoi? Eh bien, c'est essentiel. Les non-croyants sont dans le monde. Et Dieu nous a laissés sur cette terre pour être des témoins. Les non-croyants, ils ne sont pas là ce matin. J'ai prêché, j'aurais bien voulu leur dire les mêmes choses, mais ils ne sont pas là pour entendre. Donc il faut que j'aille ailleurs, si je veux qu'ils entendent. Des fois, je me souviens d'une église où je suis passé. Malheureusement, le Seigneur m'a demandé d'être une sentinelle, bien souvent, dans les églises où je passe. Et dans cette église, ils évangélisaient. On dit, Michel, nous, on sait évangéliser. Dit, ah, fantastique, extraordinaire, parce que vous allez m'apprendre. Moi, j'essaye, et des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Donc, si vous, vous savez, c'est parfait. Ils se réunissaient régulièrement, un mercredi soir, comme ça, ils avaient des tables. Ils se mettaient ensemble autour de ces tables, partageaient des gâteaux, et puis des cafés, etc. et tout. Et j'ai dit, ils sont où, les noms? Évangéliser. Ben, il n'y en avait pas. Ils envoyaient des mots hein, partout, mais il n'y avait personne qui venait. Je dis, mais ils ne vont pas venir. Il faut que vous, vous alliez chez eux. C'est là-bas qu'ils sont. Ah oui, mais ils ne nous veulent pas. Ah, peut-être que vous n'êtes pas un sel qui sale bien. Il faut réfléchir. Hein. Moi, dans ma nourriture, je mets du sel et c'est bon, j'aime bien. Ça donne du goût. Et puis, je suis gourmand, hein. Et pourquoi? Parce que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendre gloire à Dieu le jour où il interviendra. Alors simplement, je me répète en deux secondes, c'est que heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui n'ont pas une trop bonne opinion d'eux-mêmes, qui ne se croient pas supérieurs aux autres. Si nous avons la joie de connaître la parole de Dieu, c'est bien. C'est bien pour nous, mais que ce soit bien aussi pour les autres, pour ceux que nous rencontrons et qu'ils aient envie de l'entendre, parce qu'ils nous voient la pratiquer. Je veux dire que si je dis à quelqu'un que c'est bien, d'ailleurs c'est Jacques qui le dit, hein, il dit, tu vois, toi qui as faim, c'est bien, alors on va essayer de te donner à manger. Moi, par contre, je suis repu. Hein, je suis un vénard, ma table, elle est bien fournie, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, et toi, tu crèves de faim. Alors ça peut être spirituel aussi, hein. Moi, je connais beaucoup de gens qui spirituellement, et je me demande souvent, je prie, je dis, mais comment faire pour arriver à passer cette carapace qu'ils ont mis au début d'indifférence, pour arriver jusqu'à leur cœur et leur donner la joie de découvrir les merveilleuses nouvelles de l'Évangile. Ce sont des sujets de prière. Heureux ceux qui ont le cœur pur. N'oubliez jamais ça. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me percute de plein fouet. Je me dis, avec tout ce que j'ai vécu, d'ailleurs souvent on me dit, mais comment tu fais pour être innocent comme ça? Ben oui. Ma femme, elle me dit, t'es un peu naïf. Oh, pas qu'un peu. Beaucoup. Elle a raison. Mais c'est ce qui me sauve. Cette naïveté me permet de croire toujours qu'il est encore temps d'apporter l'Évangile. C'est maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant. Il faut y aller. Et puis, j'avais ce même copain qui me disait, alors lui, c'était un pasteur qui était dans les Vosges, et puis un bon formateur aussi d'anciens, puisqu'il nous formait, et il nous disait donc de passer la serpillière, mais il nous donnait un exemple aussi extraordinaire. Il disait, moi, je ne sais pas évangéliser. J'y arrive pas. Je ne sais pas comment vous faites, vous qui avez un tempérament à faire ci, à faire ça. Moi, j'y arrive pas. Il dit, ce que je fais, par contre, c'est que je fais du porte-à-porte pour porter les calendriers, pour porter les messages, etc. Alors, ce que je fais, c'est que je sonne à la porte et puis après, je m'arrête et je dis, Seigneur, maintenant, c'est à toi de jouer. Pas extraordinaire, ça? Un brave homme qui a été malade et qui est toujours vivant d'ailleurs. Il doit avoir un an ou deux ans de plus que moi, je crois. Mais il a vraiment fait un excellent travail dans les Vosges. Les Vosges, c'est pas facile, hein. Ouais, c'est pas un territoire qui est plaisant, parce que c'est large et puis ils sont renfermés. Vous approchez d'une maison, on ferme les volets, hein. Rien que de voir la couleur de vos chaussures, ils ont fermé les volets. Oh, oh. Non, c'est vrai, hein. C'est vraiment compliqué. Et pourtant, l'Évangile y est aussi. Donc vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. La lumière chasse les ténèbres. Logiquement, quand vous pénétrez quelque part, ça devrait faire comme un nuage qui s'écarte. Et à côté de ça, un no man's land, hein, où tout est permis. Vous avez la possibilité d'annoncer l'Évangile. Parce que tout s'est purifié, tout s'est nettoyé. Lui, il nous apporte quelque chose de nouveau. Elle vient nous partager quelque chose d'extraordinaire. Nous allons l'écouter. Je vous invite à prier pour finir. Seigneur, quand je vois ces béatitudes, c'est vrai qu'elles me percutent de plein fouet. Elles me laissent sans voix. Parce que je m'aperçois que c'est une toute autre façon de voir la vie. Et puis de la vivre. Nous sommes dans un monde méchant, nous sommes dans un monde égoïste, un monde qui ne pense que à ce qui brille, aux paillettes, à ce qui remplit les poches, etc., etc. Mais ce n'était pas dans ce monde que tu nous demandes de vivre. Vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous y sommes envoyés comme des témoins. Et Seigneur, je prie que tu renforces nos chaussures pour que nous ayons de l'audace. De l'audace pour marcher dans ce monde. C'est difficile. J'en ai conscience et j'aime bien cette réplique de mon ami pasteur qui disait comme ça, maintenant c'est à toi de faire. Moi je suis allé jusque là, mais au moins j'ai obéi jusque là. Je me suis avancé en terrain inconnu et maintenant c'est à toi de faire, de me donner tout ce qui sera nécessaire et de convaincre aussi les autres de pécher. Seigneur, nous prions pour cette ville où tu nous as placés, pour nos voisins, pour nos familles, que de gens. Des fois, je me dis, j'ai un beau-frère qui est en train de mourir et je sais que, bon, il déteste tout ce qui a lieu trait à la religion. Et nous continuons de prier pour lui mais et pour sa femme surtout. Nous ne savons pas ce qu'il adviendra, mais Seigneur, toujours est-il que le monde court à sa perte. Il y va en courant et le diable récolte ses fruits. Voilà. Nous prions, Seigneur, pour que tu protèges notre Église, que tu protèges tous les membres, que tu protèges aussi ceux qui sont faibles, parce que Nous ne sommes pas tous pareils. Il y en a qui ont marché durement et qui ont appris à être solides. Et nous en avons qui démarrent peut-être dans la vie chrétienne, eh ben, qui rencontrent des hommes solides et qui puissent les encourager. Quand je dis les hommes, c'est hommes et femmes, bien sûr. Et Seigneur, que les uns et les autres, nous puissions former un corps qui soit édifié pour porter un bon témoignage, que nous soyons ce sel de la terre. Vraiment, c'est ma passion. J'aime, c'est vrai, j'aime tout ce qui a trait à la cuisine, mais j'aime penser que quand je suis quelque part, je peux apporter du goût. Je prie pour cet homme que j'ai rencontré à la rééducation, qui a ta parole. Il m'a dit, tiens, c'est petit. J'ai dit, oui, mais tu mets des lunettes. Et puis tu verras. C'est vrai que j'ai pensé après, j'aurais peut-être pu lui donner une Bible autrement, que mes Bibles d'évangélisation que j'ai, mais bon. En attendant, il a ta parole, Seigneur, et je pense qu'il ira voir quand même de temps en temps. Et donc, que ça soit une parole qu'il percute, comme elle m'a percuté, moi, pour les premières fois où j'ai vu, quand j'ai entendu parler qu'il y avait un Dieu qui m'aimait. J'ai dit, mais personne même. Et si, une petite voix me disait, il y a un Dieu qui t'aime et qui voudrait bien te connaître. Alors j'ai dit, fais-toi connaître, Seigneur. Ça n'a pas été facile, mais il s'est révélé à moi. Et aujourd'hui, je suis le sel de la terre. Amen. Donc, j'ai des bouquins de cuisine, si vous en voulez, ils sont gratos. Ils sont marrons.